On n'est que le 5, donc je peux vous souhaiter encore bonne année. Pour démarrer l'année, Catherine, mon épouse, m'a offert un petit livre de méditation quotidienne. Et j'ai trouvé que la méditation du 1er janvier était sympa. Alors j'avais envie de vous la faire partager. Ça commence ainsi, voilà, c'est l'occasion de faire un peu un bilan de l'année et puis d'ouvrir des perspectives pour 2020. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est un texte tiré de Exode, chapitre 12 et au verset 2. Les résolutions du jour de l'an sont bonnes en soi, mais combien difficile, voire impossible à tenir. Je crois que Jean-Marc vous en a parlé tout à l'heure. Au jour de l'an, il vaut mieux prier. Les prières montent jusqu'au trône de Dieu, où elles ne restent jamais sans réponse. À l'aube de cette nouvelle année, adressons à Dieu la prière suivante. Seigneur Jésus, je me donne de nouveau à toi aujourd'hui. En cette nouvelle année, je te prie de prendre ma vie pour l'utiliser à ta gloire. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin maître. Réminiscence de chant un petit peu ancien. Je ne sais pas si cette parole peut devenir aussi la vôtre, la nôtre, cette prière. Garde-moi de pécher, de faire quoi que ce soit qui déshonore ton nom. Fais que je me laisse enseigner par le Saint-Esprit, afin d'avancer avec toi. Ne permets pas que je demeure toujours au même point. Un petit peu de croissance dans la vie. Les économistes attendent de la croissance, mais peut-être que le Seigneur attend que chacun d'entre nous grandisse. Que cette année, ma devise soit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Toute la gloire te revient. Aide-moi à te la laisser entièrement. Enseigne-moi à prier au sujet de toutes mes décisions. J'ai si peur de m'appuyer sur ma propre sagesse. Je le sais, Seigneur, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Un texte de Jérémie au chapitre 10, le verset 23. Aide-moi à mourir au monde, même aux opinions favorables ou défavorables de ceux qui me sont chers. Que mon seul et unique but soit de satisfaire le désir de ton cœur. Prendre un petit peu de chant de ce qui nous entoure pour continuer d'apprendre à nous confier en Dieu. Garde-moi de la médisance, de la critique. Bien plus, rends mes paroles édifiantes et utiles. Conduis-moi vers les âmes assoiffées. Que je devienne comme toi l'ami des pécheurs. Donne-moi des larmes de compassion pour ceux qui périssent. Aide-moi à voir la foule avec tes yeux, mon sauveur. Donne-moi la compassion pour les brebis errantes. Que mon amour pour toi me pousse à les aimer. Seigneur Jésus, préserve-moi d'une attitude amère, froide, cynique, peu importe les circonstances. Guide-moi dans l'administration de mes biens. Aide-moi à bien gérer tout ce que tu me confies. Rappelle-moi à chaque instant que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Que cette vérité merveilleuse guide toute ma conduite. Aussi, Seigneur Jésus, puisse cette année être l'année de ton retour. J'ai hâte de te voir face à face, de me prosterner à tes pieds en humble adoration. Que cette espérance illumine mon cœur tout au long de l'année, pour me libérer de tout ce qui pourrait me retenir ici-bas, me garder vigilant dans l'attente de ton retour. Amen. Viens, Seigneur Jésus. J'ai trouvé ce texte sympa déjà pour ma vie. Ça m'a amené à me poser la question, comment est-ce que Dieu peut continuer de rendre vivante sa parole dans nos vies? Tellement de paroles ici-bas, peut-être vous écoutez les médias, le discours en famille, au travail, à l'école, dans l'enseignement, il y a plein de paroles qui défilent, et puis le bilan 2019 et en 2020, qu'est-ce qu'on va retenir comme parole? Est-ce que le plus lourd, le plus important, c'est une parole inspirée, une parole reçue de Dieu? Peut-être qu'en 2019, en 2020, il y aura des paroles qui viendront à nous et qui seront parfois difficiles. Hein. Il était parlé, là, aide-moi à mettre de côté la critique, le jugement. Parfois, il n'y a pas toujours des paroles à propos que l'on dit ou que l'on reçoit. Mais comment est-ce que je peux avoir envie, comment est-ce que je peux retenir une parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui rend, par exemple, que la parole écrite peut devenir une parole vivante, que quand je lise l'écriture, ah, il y a la vie dedans, cette parole, elle me parle, elle me touche. Une parole qui me nourrit, qui développe ma vie spirituelle, intérieure. Comment est-ce que la parole de Dieu peut participer au renouvellement, restauration, je vais utiliser plein de mots, revitalisation, une vie, la résurrection, une vie nouvelle, régénération, remettre des choses en ordre, en guérison, ressourcement de ma vie. Je vous laisse plein de mots, peut-être qu'il y en a qui vous touchent les uns plus que les autres. Comment est-ce que la rédemption, la guérison, la délivrance, le salut qui est en Jésus-Christ peut me toucher à travers la parole de Dieu, parole prêchée, au travers des contacts, au travers des prières? Quelle sera ma priorité de parole cette année? Est-ce que c'est une parole vivante de Dieu par Jésus-Christ? Ou est-ce que c'est le flot de paroles qui vont circuler entre mes deux oreilles? J'ai des petits appareils, donc j'entends mieux maintenant les paroles qu'avant. On entend mieux les prières, on peut les partager, mais lesquelles de ces paroles vont s'imprimer dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma vie? Quelle parole va me mettre en mouvement? Quelle parole va nourrir ma vie? Est-ce que c'est des paroles qui portent un processus de mort? Ou est-ce que c'est des paroles qui vont porter un processus de vie? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Et il veut que cette vie de résurrection se développe en moi. Comment est-ce que je vais entretenir la vie éternelle qui est en Jésus-Christ? Est-ce que comme de l'eau, je vais la laisser filer et puis elle ne servira pas à grand-chose? Ou est-ce qu'au contraire, je vais bien arroser ma vie de paroles, de promesses de Dieu? Dans ce petit bouquin, il y a 365 jours. Donc, je suis rendu, on est le 5, hein. J'en ai déjà lu 5. J'en aurai 365 à lire. Quelles sont les 365 paroles de Dieu qui vont édifier ma vie, qui vont être un appui, qui vont être quelque chose d'extraordinaire, qui vont créer quelque chose de nouveau, qui vont renouveler, restaurer, revitaliser, ressusciter, régénérer, ressourcer ma vie? On partage un de... Alors j'ai beaucoup de textes préférés, j'ai peut-être toute l'écriture préférée. Dans tous les textes de l'écriture, il y a quelque chose de vivant, de nouveau à prendre. Mais j'aime beaucoup parfois citer et lire en début d'année. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui ou non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit, quelque chose de nouveau de l'esprit. Comment est-ce que je peux lire les promesses de l'Écriture? Et alors, les gens disent « Yes !» Oui. Seigneur, merci de continuer de rendre vivant pour moi les promesses de l'Écriture. On dit que parfois, on pourrait trouver 365 promesses dans l'Écriture. Je suis sûr qu'en cherchant bien, on peut en trouver plus. Parfois, même une parole un peu difficile peut être une parole de promesse, promesse de guérison, de délivrance. Quel processus de rédemption est-ce que je vais mettre en route dans ma vie en 2020 pour que la parole de Dieu devienne une parole vivante? J'aimerais lire avec vous dans Romains chapitre 10. J'aimerais voir ce thème avec vous ce matin, être renouvelé par la parole de Dieu. Fidélité à la parole et puis avoir soif et faim de la parole de Dieu. Romains 10, les versets 14 à 18. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Que Dieu soit béni pour les prédicateurs. Jusqu'aux extrémités de la terre, et la terre aujourd'hui en a bien besoin. La foi vient de ce que l'on entend. Je disais, on va entendre plein de paroles. Cette année, en 2019, on a eu peut-être jusqu'à être saoulé de paroles. Toutes n'ont pas servi à grand-chose. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que j'ai retenu en 2019 de la parole de Christ? Une parole vivante, éternelle. C'est-à-dire que cette parole, je vais la retrouver dans les siècles et les siècles. Tout jamais. Est-ce que ça vaut le coup de prendre du temps pour lire, pour travailler, pour assimiler, pour accepter, pour s'ouvrir à cette parole dans nos vies? Deux choses de cause à effet. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Pouvoir prêter attention en 2020 à cette parole. Parole qui nous ressource, qui nous régénère, qui nous revitalise, qui nous rend à la vie. Ce texte nous parle des prédicateurs. C'est bien qu'il y ait des églises, c'est bien qu'il y ait des prédicateurs envoyés. C'est bien s'il y a de la fidélité à la parole de Christ. Une des raisons d'être de l'Église, c'est cette transmission et cette fidélité à l'Écriture, avoir cette droiture dire, prêcher la parole droitement, dire quelque chose qui est carré, qui est fondé, qui est posé. Je voulais vous lire les paroles d'un cantique que j'aime beaucoup. Je me suis dit, est-ce que je demande à Jean-Marc qu'on le chante ? Mais non, je vais simplement vous le lire. De Dieu, la parole demeure à jamais, car Dieu lui-même habite en elle. Ta foi peut bâtir sur tout ce qu'il promet. Le Dieu des promesses est fidèle. La Bible est un roc, nul ne peut l'ébranler. C'est la parole éternelle. Tant que tu croiras, ta foi le verra. Le Dieu des promesses est fidèle. Qui cherche trouve, qui prie reçoit. Dans son amour, Dieu se révèle. Rien n'est impossible pour celui qui croit. Le Dieu des promesses est fidèle. Que dans le creuset de l'épreuve, ton cœur ait foi, sa présence est réelle. Il te guidera jusqu'au but en vainqueur. Le Dieu des promesses est fidèle. À tous les assauts de l'incrédulité, aux flèches d'un monde rebelle, sereine, immuable, elle a su résister. Le Dieu des promesses est fidèle. Je vous rappelle le refrain. La Bible est un roc, nul ne peut l'ébranler. C'est la parole éternelle. Tant que tu croiras, ta foi le verra. Le Dieu des promesses est fidèle. Peut-être une autre fois, dimanche prochain ou le dimanche, on pourra chanter ce chant ensemble. Voilà, au-delà d'être les chants qui ont bercé le démarrage de ma vie chrétienne, mais c'est vrai que c'est aussi simplement des chants simples qui ont permis de m'enraciner aussi dans l'importance de l'écriture. Dans les épîtres, il y a énormément d'avertissements sur le fait d'être fidèle à l'écriture. J'aimerais lire avec vous dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, on va lire des versets 20 à 35, un texte qui est intéressant. Acte 20, 22. Maintenant voici, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même, tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec vous. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Maintenant, je vous recommande à Dieu, à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier, donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins, à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Paul parle de son service de prédication, d'enseignement. Et j'aime beaucoup cette parole. « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Est-ce que nous avons soif et faim de recevoir tout le conseil de Dieu sans en rien cacher? Ça peut être parfois difficile, peut-être parfois on aimerait mettre de côté certains enseignements, certaines doctrines, certaines choses. Est-ce que nous avons soif et envie pendant cette année 2020, envie de connaître, de découvrir tout le conseil de Dieu? Trouver, choisir une église où ce conseil de Dieu se transmet avec cette plénitude, don spirituel, le fruit spirituel de la vie de l'Esprit, la vie du Christ ressuscité. C'est la responsabilité aussi de l'Esprit-Saint. Prenez donc garde à vous-même, tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Le Saint-Esprit veille à ce que tout le conseil de Dieu soit annoncé, toute sa force, dans toute sa plénitude, dans toute sa vérité. Savoir qu'en dehors de la vie avec le Christ Jésus, il n'y a pas de vie. Seule la vie éternelle en Jésus-Christ est importante et intéressante. Recevoir une parole de grâce, édifier, donner l'héritage avec tous les sanctifiés, travaillant, soutenant les faibles, se soutenir les uns les autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Grandir ensemble dans les dons spirituels. Il y en a qui sont courants, que l'on manifeste. On a encore des territoires à conquérir, à vivre dans les dons spirituels, dans les dons de discernement, de guérison, de miracles. Il y a des domaines encore à investir. Une église dans la dynamique parole de Christ par l'Esprit Saint, dans sa plénitude. Ne pas retenir la parole de Dieu, pas l'amoindrir, ne pas la tordre, ne pas l'étouffer. J'aimerais lire avec vous encore un texte dans les Actes au chapitre 17, les versets 10 à 11. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pouvoir vérifier l'enseignement, la prédication, parole qui est apportée dans l'Église. C'était des personnes qui avaient des sentiments nobles. Pouvoir développer des sentiments nobles pour accepter, recevoir, être confronté à la parole de Dieu. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ça soulage les prédicateurs quand la parole est portée, quand elle est reçue et quand le dialogue peut s'instaurer et quand... La bonne nouvelle de l'Évangile est que les 365 promesses de Dieu soient annoncées, soient partagées. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Je ne sais pas quelle est votre habitude, si vous avez l'habitude de prendre un petit temps de culte tous les jours. Quand j'ai démarré ma vie chrétienne, au bout de quelques mois, j'ai rencontré toute une équipe de jeunesse en mission. Et tout de suite, on m'a mis dans le bain en disant, voilà, c'est important tous les jours, quel que soit le moment de la journée, mais pouvoir trouver un moment privilégié dans la journée pour lire l'Écriture, pour dialoguer avec Jésus, pour parler de sa journée, parler de sa vie, pour... C'est ce qu'on a lu là, hein, Seigneur, que je puisse tous les jours discuter, dialoguer, parler de ma vie avec toi et que tous mes choix soient en toi. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Parfois, ça peut vouloir dire peut-être se confronter aux prédications, à l'enseignement, dire « mais pourquoi tu dis ça ? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Et j'aimerais bien vivre, recevoir la même chose que toi. » Exhortation de Paul à Timothée. Je vous cite plein de mes textes préférés ce matin. De Timothée 3, 14, 17. Un des textes clés pour moi. Clé dans l'enseignement. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, l'être humain, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Demeure dans les choses que tu as apprises, reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de prédications, beaucoup d'enseignements circulent sur un média qu'on appelle Internet, sur les smartphones, sur les tablettes, sur les ordinateurs. Il y a très certainement beaucoup de bonnes choses. Mais il y en a sans doute aussi certaines dont il faut garder un petit peu de recul, un petit peu d'esprit critique. La prédication, l'enseignement de l'Écriture, c'est important. Demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. C'est important de vérifier nos sources, d'aller gratter derrière, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Quand je suis venu au Seigneur, j'ai fait une formation de 9 mois comme jardinier, et j'ai dit au Seigneur, banco, je voudrais donner le double ou le triple de formation professionnelle pour être formé sur l'Écriture. Sans une formation profonde sur l'Écriture, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout de la foi chrétienne. J'ai ce privilège de pouvoir prendre 3 ans de travailler l'Écriture. Et depuis plus de 40 ans, le travail continue toujours. Je ne suis toujours pas arrivé au bout. L'Écriture, elle se travaille jusqu'à la fin de nos jours. Les Béréens, tous les jours, disaient l'Écriture, ils vérifiaient l'enseignement de Paul, voir si ce qu'il disait était fondé, était juste, voir quelle vérité se dégageait, voir comment le Saint-Esprit allait les accompagner avec ses paroles de foi, et comment est-ce qu'ils allaient continuer à vivre, se développer dans la vie chrétienne. L'importance de l'enseignement des enfants. Demeure dans les choses que tu as reçues. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Impératif dans nos familles, quand on a des enfants en bas âge, les conduire, les guider dans la foi chrétienne. Ce n'est pas imposer des choses, c'est simplement, de toute façon, dans la vie, on est enseigné d'une manière ou d'une autre. Autant fixer le cap, le contenu de ce qui est enseigné aux enfants. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Enseigner souvent, on est d'accord pour être enseigné. Convaincre, déjà, c'est plus difficile, hein. Ça fait une tension. Qui essaye de me convaincre de quoi ? Et dans l'enseignement, dans la prédication, voilà. Seigneur, qu'est-ce que ton esprit me fait comme ouverture, me dit comme vérité ? Toute écriture est inspirée, utile pour corriger. On va dire que c'est moins drôle. Moi, j'ai un petit peu de peine avec la correction. Peut-être que j'ai eu ma dose étant enfant. J'étais 4 ans dans un collège catholique en pension. Où j'ai été dressé à coups de claque, de punition. Donc la correction, j'ai un petit peu de peine. Je l'accepte quand c'est dans une relation paternelle avec Dieu. Et quand le Seigneur me dit, dans ce domaine-là, tu as besoin de correction. Mais si c'est par un média ou un intermédiaire humain, j'ai de la peine. Et il faut une relation à Christ pour... Et je reconnais que 2-3 fois, voilà, le Seigneur m'a dit, assieds-toi. Ça ne le fait pas. J'accepte assez facilement si le Seigneur veut me corriger. Mais après, il faut... Voilà. C'est du dialogue pour chacun. Pour instruire dans la justice, quelle est ma capacité à accepter l'instruction ? Et est-ce qu'en 2020, je vais accepter d'être enseigné, convaincu, corrigé, instruit dans la justice ? Pour devenir un homme, une femme de Dieu. Il y a le mot « oanthropos », hein, c'est un neutre, ça s'adresse aux hommes et aux femmes. Ce n'est pas qu'aux hommes en tant que sexe. L'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà, pour que se développe en nous la réalité et la vérité du Christ à Jésus. Il y a un mot d'ordre que je lis depuis des années. Il est écrit dans la première page de ma Bible. Le Christ tout entier dans la Bible, tout entière. Comment est-ce que l'Esprit-Saint peut m'accompagner, y compris dans la lecture de l'Ancien Testament, à rencontrer Christ, rencontrer les promesses de guérison, de salut, de vie éternelle qui sont dans l'Écriture. Comment est-ce que dans toute l'Écriture, ma pensée, mon option, ce que j'ai envie, ce soit de découvrir Christ. De la Genèse à l'Apocalypse. Le Christ tout entier dans la Bible, tout entier. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Cette parole a été dite par Ruben Sayens, qui était un revivaliste français. Je remarque qu'il sourit, c'est vrai que c'est un, mais j'aime beaucoup la pensée de cet homme. Il est né en 1855, il est décédé en 1942. Il a développé les églises baptistes, c'était un cévenol. Il a développé la convention de Morges. Il est le père spirituel de l'église du Tabernacle à Paris, fondateur de l'Institut Nogent-sur-Marne, premier président d'une fédération franco-suisse baptiste. Il a eu 5 enfants, dont Madeleine Blocher-Sayens, première femme pasteur protestante. C'est un homme qui a été auteur, chante, compositeur. Il a composé 160 cantiques. Il a développé l'hymnologie. Entre autres dans les œuvres de la foi, puisque Jean-Marc en parlait tout à l'heure, il a écrit, composé 160 cantiques. La vie, la louange étaient dans sa vie. Et c'est un homme qui, à 30 ans, a vécu une crise profonde dans sa vie. il trouvait qu'à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose qui n'était pas suffisamment en harmonie avec Dieu. Il se trouvait toujours pécheur, il y a toujours quelque chose qui grattait, qui tiraillait, qui les rendait, qui lui donnait de l'insatisfaction. Il a redécouvert quelque chose de profond dans l'écriture, une libération en relisant Romains 6, 7 et 8. Toute cette confrontation de ce que l'on est, de ce que je suis, de notre égoïsme par rapport à l'œuvre, par rapport à la parole de Christ. Et cet homme a, pendant plusieurs mois, plusieurs années, soupiré après une délivrance de quelque chose de profond. Et il a vécu ce qu'il appelle lui une deuxième bénédiction. Je pense qu'il a été simplement baptisé, rempli du Saint-Esprit, et quelque chose s'est déconnecté, quelque chose a été changé dans sa vie. Et il a pu se développer, et je pense qu'il a amené tout ce mouvement baptiste vraiment à vivre un renouveau. Il y a eu vraiment un réveil spirituel en France, en Suisse, au cours de toutes ces années d'avant-guerre. Moi, j'appelle ça un ministère d'Esdras. Esdras qui a su relire, redécouvrir l'écriture pendant un temps en Israël, retour de l'exil. Les gens avaient oublié la parole de Dieu. Esdras l'a remis au goût du jour. Il l'a fait relire en place publique. Pas seulement lire et relire, mais aussi mettre en pratique. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. J'aimerais que l'on continue ensemble en 2020 à entendre, à écouter la parole de Christ. On continuera sur ce thème lors d'une prochaine fois, parler de la faim et de la soif de la parole de Dieu. On veut rendre grâce ensemble. Père Céleste, merci de nous avoir placés dans ce corps de Christ, dans cette Église. Merci parce qu'ensemble, tu fais retentir dans nos cœurs, dans nos esprits, cette parole de foi, cette bonne nouvelle, cette parole de salut, de guérison, de délivrance en Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous accompagner toute cette année qui vient par ta parole. Merci de nous rendre attentifs. Merci de nous apprendre à l'entendre, à l'écouter, à l'accepter, à lui obéir, que cette vie de résurrection qui est en toi, cette rédemption qui est en Jésus-Christ, entre dans ma vie par ta parole. Aide-moi à considérer ta parole par l'Esprit Saint. Que ton Esprit Saint nous éclaire les uns les autres sur tes promesses. Merci pour toutes celles que tu as faites, celles qui se sont réalisées, celle encore qui demande à venir au jour. Merci de ta grâce dans ma vie, dans nos vies. Merci pour cette parole vivante en Jésus-Christ. Amen.